Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche matin pour cette 39e foire du livre de Brive avec ce matin deux auteurs pour parler des résistants au pluriel mais également des résistantes, de ces valeureuses dont vous parlez Jérôme Cordelier. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef au Point et vous venez de faire paraître chez Calman Levy « L'espérance est un risque à courir », une phrase magnifique de Bernanos sur les traces des résistants chrétiens. Et Jean-David Morvan, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître deux bandes dessinées. La première, Madeleine résistante, le premier tome, qui raconte l'histoire de cette femme extraordinaire qui est Madeleine Riffaut, et La ferme de l'enfant-loup, où il est question du maquis du Vercors, avec notamment la présence de résistantes. Et vous évoquez en juillet 44 quand les Allemands ont attaqué justement ce maquis. Ce qui m'intéresse dans vos approches à tous les deux, c'est que c'est d'abord des ouvrages qui parlent de rencontres. Le fait aussi de ne pas oublier ces hommes et ces femmes, mais avant tout ce sont des rencontres, une quête, une enquête. Jérôme Cordelier, vous êtes allé rencontrer un certain nombre de ces résistants et de ces résistantes qui sont encore en vie. Vous êtes aussi déplacé dans des lieux, notamment à Jérusalem. En quoi c'est important d'aller écouter la parole physiquement vivante de ces personnes-là?
Ah ben, j'avoue, ça m'est un peu tombé dessus. Alors, je pense que c'est de mon voisin aussi. C'est-à-dire que, puis moi, je suis journaliste. Alors, évidemment, j'ai fait des études d'histoire, mais ce qui m'intéresse, c'est de restituer le témoignage et la parole et de le faire de manière vivante. C'est-à-dire que je l'écris un peu comme un grand reportage, en fait, qui commence ici même à Brive, hein, puisque moi je suis d'origine briviste, que ma famille a connu les Michelet. Enfin, donc j'ai eu la chance aussi de voir plusieurs fois Claude Michelet. Et jusqu'à Jérusalem. Et donc il y a ça, donc ça c'est un peu chemin faisant, si je puis dire. Et puis ce qui m'intéresse, c'est de mêler un peu la grande histoire et les témoignages personnels. Et puis ensuite, la deuxième dimension, évidemment, c'est que je pense qu'il est important de faire mémoire, c'est-à-dire que c'est vraiment. Alors il y a un autre livre à succès aussi qui part, mais dans un autre genre, mais qui est Les Derniers, mais c'est vraiment Les Derniers, quoi. Donc on entend. Donc j'ai eu la chance de rencontrer au cours de cette enquête Madame Fleury-Marié, qui est une femme incroyable, et d'ailleurs on a fait un récit parce que j'ai fait une pause dans mon enquête en disant mais il faut vraiment faire juste son témoignage parce qu'elle a une mémoire absolue, donc qui était une grande résistante déportée à Ravensbrück. Et puis dans ce livre j'ai rencontré aussi Odile de Vasselot, qui est aussi une grande résistante qui vit à Paris, qui a une mémoire. Ce sont des femmes exceptionnelles, hein. Je pense qu'on en parlera avec Madeleine Riffaut, mais enfin, quand on voit un peu tous les gens qu'on met en avant dans notre société, c'est vrai que là, on est vraiment dans les héros, les héroïnes, avec un grand H, si on peut dire. Et puis moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que comme on a une époque, tout le monde s'exhibe sur Instagram, les réseaux sociaux, tout ça, c'est la discrétion absolue de ces gens-là, quoi. C'est-à-dire qu'Odile de Vasselot, moi, quand j'allais la voir, elle habite à côté du musée d'Orsay. D'abord, elle était pile à l'heure, elle m'attendait dans le hall de l'immeuble, dans son fauteuil, avec sa canne. Et elle me sortait de. Alors, elle avait un espèce de sac publicitaire, si je peux dire. Enfin, vous voyez, un truc, une sacoche comme ça. Et elle me sortait enrubannée dans du plastique les exemplaires des cahiers du témoignage chrétien. Donc, et elle me montrait ça comme ça. Donc, c'était très émouvant. Et puis surtout, c'est que elle voulait. Mais elle disait non, mais moi, j'ai rien fait. Et puis, il fallait bien faire quelque chose. Donc, voilà. Donc. Et après, j'ai aussi la chance. Et c'est le même bois dont elle est faite, c'est de rencontrer la dernière fille du général Leclerc, qui est en fait, et c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire que je me suis lié d'amitié avec un garçon qui était venu avec sa compagne chez moi, enfin bref, voilà quoi, les hasards de la vie, et puis il était très discret, et puis tout d'un coup il me dit « Ah, mais je crois que tu travailles sur la résistance, ben sache que ma mère est la dernière fille du général Leclerc. » Donc j'étais la voir et je trouve que c'est important de faire mémoire. Et moi, après, il y a une autre dimension, c'est que je voulais faire quelque chose sur la résistance chrétienne parce que j'ai été stupéfait de découvrir qu'il n'y avait quasiment rien sur la résistance chrétienne. Alors à Brive, on est bien placé pour le savoir, parmi les premiers à défier les nazis, ça a été quand même les chrétiens. Alors évidemment, je n'occulte pas la face sombre et j'ai même très enquêté dessus de la face sombre de qui est la on peut dire la collaboration des évêques et des cardinaux avec le régime de Vichy. Mais je voulais mettre en avant cette face aussi plus lumineuse de tous ces gens qui discrètement se sont engagés comme ça, chacun chez eux, dans leur quartier, dans leur village et tout. Et d'ailleurs, je suis très étonné depuis la sortie du... Et après, j'en aurai fini. Je suis très étonné par le... Depuis que le livre est sorti, le nombre de courriers de gens qui m'écrivent en disant « Ah, mais vous avez oublié telle personne ». Donc moi, je pense que, bon, il y a ce livre fameux de Hannah Arendt sur le procès d'Eichmann, Adolf Eichmann, où, elle a parlé de la banalité du mal. Et bien moi, je pense aussi qu'il y a eu, une conjuration du bien. Et donc voilà, j'ai voulu essayer de rendre mémoire un peu à tous ces anonymes, ces dizaines de milliers d'anonymes. Donc évidemment, il y a des gens plus connus comme Edmond Michelet, mais je refais pas l'histoire d'Edmond Michelet, c'est-à-dire je raconte en fait tous ces, donc c'est mon premier chapitre sur la Corrèze, je raconte tous ces réseaux qui se sont mis en place à un moment donné, et voilà, donc j'ai essayé de réparer une injustice un peu qui est que ce pont oublié l'histoire sur la résistance chrétienne.
Vous évoquez d'ailleurs des hauts lieux corréziens, mais le lien aussi avec le personnage, par exemple, enfin, la personne d'Odile de Vasselot et Madeleine, c'est ce rapport aussi à ce qui est spirituel, mais aussi littéraire. Vous le dites, un grand témoin de l'histoire se tenait devant moi, mais cette femme à la simplicité désarmante faisait tout pour ne pas en avoir l'air. Elle partageait le plus tranquillement du monde son histoire extraordinaire, avec le scrupule du fait juste, grâce à une mémoire incroyablement intacte, entretenu en apprenant sa vie durant des vers de Dubellay, d'Hugo ou de Vigny. Et on retrouve un peu votre rencontre aussi avec Madeleine Riffaut qui avait pris comme pseudonyme Rainer en référence au poète Rainer Maria Rilke.
Ouais, d'ailleurs Madeleine quand elle était rue des Saussées, mais surtout à Fresnes, donc arrêtée par la Gestapo et torturée, tout ça, bon. Elle passait son temps à se réciter des vers. Aujourd'hui, elle a 97 ans. Madeleine, elle récite des livres entiers de poésie. Elle s'en souvient parfaitement. C'est impressionnant comme la poésie à l'époque était vraiment très, très, très importante en fait pour tout le monde et dans la résistance énormément. Évidemment, Éluard, Aragon. Elle dit qu'au début de la guerre, les Allemands, ils ne censuraient pas la poésie parce qu'en fait, ils comprenaient pas que c'était révolutionnaire d'une certaine manière. Après, ils s'en sont rendus compte. Mais au début, non. Donc oui, c'est ça. Et puis je pense que c'est la mémoire aussi, le lien entre les deux. Parce que Madeleine, c'est pareil, elle a une mémoire pointue. Elle se souvient en 1930 d'un garçon qu'elle a rencontré, comment il était habillé, quelle odeur il avait. Elle se souvient de tout. Ouais, c'est incroyable.
Et vous, votre rencontre, elle s'est passée comment? Parce que ce qui est évocateur dans la manière dont vous êtes rencontrés, c'est aussi sur le médium qu'est la bande dessinée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on transmet, à qui on transmet et de quelle manière?
En fait, j'ai rencontré Madeleine parce que j'ai travaillé avant, et c'est encore raccord avec ça, sur une BD qui s'appelle Irena. Donc, c'est l'histoire de Irena Sendlerova qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Donc, qui est morte en 2008 à 98 ans, qui est une catholique, en fait, qui pouvait rentrer dans le ghetto pour soigner les juifs payés par les Allemands pour éviter le typhus et tout ça. Et en fait, elle a sauvé donc 2500 enfants juifs qu'elle a exfiltré et placé dans des familles catholiques, ce qui fait que la Pologne, malgré tout ce qu'on peut en penser, est quand même le pays dans lequel il y a le plus de justes, puisqu'il y a au moins 2500 familles qui sont occupées d'enfants juifs. Et donc comme j'étais très frustré de ne pas avoir rencontré Irena, un jour j'ai vu le documentaire Résistante, dans lequel il y a Marie-Jo Chombard-Delauve, Cécile Rol-Tanguy et puis Madeleine, qui sont toutes les trois géniales. Mais je trouvais que chez Madeleine, il y avait un truc qui m'attirait, une énergie comme ça. Et je me suis dit, il faut que je la rencontre parce que c'est ma dernière chance de rencontrer des gens qui ont vécu ça. J'ai fait tout un livre d'après des livres, c'est en allant à Varsovie et tout ça, c'est sympa. Mais rencontrer les gens, c'est encore mieux. Donc j'ai un copain journaliste qui m'a trouvé son numéro de téléphone et puis je l'ai appelé. Et donc elle m'a dit, comment vous avez eu mon numéro? Alors, je dis, j'ai demandé à un copain journaliste. Bah vous êtes bien bête parce que je suis dans l'annuaire et puis vous pouvez me trouver sur internet. Très bien. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Bah je voudrais faire une bande dessinée. Ah, une bande dessinée, n'importe quoi. On m'aura vraiment mis à toutes les sauces. Ah là là, une BD, mais c'est pour les enfants. Bon, rappelez-moi la semaine prochaine. Bon, comme je suis un peu timide au téléphone, j'ai mis 2 semaines à me rappeler, à la rappeler. Et puis là, elle m'a dit heureusement que vous m'avez rappelé, parce que moi, j'ai pas eu, j'avais pas votre numéro, mais j'en ai parlé à mon copain Georges Amat, qui est réalisateur de films et qui a fait des films sur elle. Et il m'a dit, mais Madeleine, t'es vraiment complètement con. En vieillissant, tu deviens complètement débile. La BD, c'est vraiment génial pour le message que tu veux faire passer. Cobra, que t'as demandé de faire passer, qui est je suis pas une victime, je suis un résistant. Et si tu veux toujours continuer à le faire passer, la BD, c'est le meilleur des médiums parce que ça s'adresse à tout le monde aujourd'hui. Et les journalistes, ça les intéresse, ça intéresse tout le monde, les gens. Donc fais-le, rappelle ce gars. Elle a dit, bah, j'ai pas son numéro, tant pis. Et puis bon, je l'ai rappelé. Elle m'a dit, venez chez moi. Voilà, je suis venu et puis après on s'est rencontrés. C'était tout de suite, c'était parti. Après, il y avait plus de frein. Elle avait compris ce que c'était la BD. Elle comprend vite. Et donc, je pense que c'est le premier auteur de BD à publier son premier album à 96 ans, ce qui est quand même pas mal. Voilà, c'est encore un record de Madeleine Riffaut, on va dire.
Jérôme Cordelier, dans votre travail aussi, vous essayez d'apporter aussi un peu de nuances pour passer de ce que vous appelez l'image qu'on a de l'histoire en noir et blanc à une image un peu plus grise. Vous dites, c'est une erreur de notre époque amnésique et confuse, de plus, de croire que l'histoire s'écrit en noir et blanc. Qu'est-ce que cette époque, justement, avait de grise qui fait que, par exemple, quand on prend une figure comme Paul Raymond, qui était pétainiste et qui, pourtant, à la fin, a été reconnu comme juste?
Oui, vous savez, l'époque noir et blanc, c'est qu'on dit toujours l'éternelle question qu'on a tous, c'est résistant ou collaborateur. Or, évidemment, c'était beaucoup plus complexe que ça. Et vous faites bien, et je vous en remercie de citer Mgr Raymond, parce que bon, moi, j'avais évidemment enquêté beaucoup sur le fait que la haute hiérarchie de l'Église avait, dans le sillage de Pie XII, hein, avait quand même si l'affaire Pie XII est beaucoup plus complexe que Costa Gavras en a donné l'impression avec cette affiche scandaleuse qui en est le film Amen, en faisant une conjonction entre la croix gammée et la croix du Christ. Hein, faut quand même dire les choses, c'est pas assez dit. Mais bon, il y a quand même donc toute cette hiérarchie qui, jusqu'en 42, ça c'est sûr, jusqu'au statut des Juifs, a quand même pactisé avec le régime de Vichy. Et même, d'ailleurs, j'ai retrouvé des choses absolument confondantes parce que le maréchal Pétain était quand même un paillard totalement, enfin, qui n'était pas du tout chrétien, catholique, enfin, qui n'avait aucune religion, qui s'est servi, en fait, il y a une instrumentalisation mutuelle entre l'Église et le régime de Vichy, parce que le régime de Vichy se sert de l'Église, qui est quand même très dominante à cette époque, pour asseoir sa révolution nationale sur les esprits, et l'Église se sert du régime de Vichy pour faire une restauration morale. Donc il y a une espèce de pacte politique, on peut dire, entre deux pouvoirs. Et donc je fais juste cette digression pour qu'on comprenne, parce que jusqu'en 1942, bon, les évêques, les cardinaux, j'ai retrouvé des choses confondantes, où on met le portrait de Pétain sur les autels, dans les églises, on fait des sermons, des prières à Pétain. Odile de Vasselot m'a raconté justement les pèlerinages au Puy-en-Velay, les litanies du Puy, où tout le monde allait chanter à la gloire de Philippe Pétain. Enfin, bon, c'est des trucs inimaginables. Il y a ça, mais en même temps, moi j'arrive à Yad Vashem, je regarde le juste, et je vois un énorme portrait de Mgr Raymond, donc l'évêque de Nice, donc dans le mémorial des justes à Yad Vashem. Mais je me dis, mais il y a un truc que je ne comprends pas, parce que Mgr Raymond, il avait un énorme portrait de Pétain dans son bureau, donc c'était un pétainiste zélé, comme l'était d'ailleurs le cardinal Gerlier à Lyon, comme l'était aussi Mgr Saliège, et en fait tous ces gens ont été aussi justes parmi les nations. Donc et en fait, bon, ben, Paul Raymond, il était pétainiste, mais en même temps, il a couvert les réseaux avec les époux Abadi, Moussa Abadi, qui était un juif syrien réfugié à Nice, de sauvetage des enfants juifs. Il a sauvé, en fait, en couvrant tout ça, il a sauvé des dizaines de milliers de gens, et notamment ce juif Moussa Abadi, il le faisait sortir avec une soutane. Donc il se baladait dans l'arrière-pays niçois, enfin, avec une soutane pour le protéger. Et ça a été pareil pour Gerlier, qui avait dit quand même cette phrase que tout le monde a en mémoire, « Pétain, c'est la France », qui couvrait aussi l'amitié chrétienne, donc avec notamment l'abbé Klasberg. Enfin, c'est quand même et Saliège évidemment qui est pas très loin d'ici à Montauban, qui a fait cette les Juifs sont nos frères et qui a fait que beaucoup de gens sont partis en résistance. Donc ce que je veux dire, c'est que on est dans des zones grises de l'histoire. Et d'ailleurs récemment, vous avez vu, il y a encore trois personnes, notamment le cardinal Eugène Tisserand, qui a été déclaré juste parmi les nations, alors que le cardinal Eugène Tisserand, il travaillait en lien direct avec Pie XII. Donc toute cette période est assez compliquée, et quand on a une vision simpliste, c'est toujours un peu compliqué. C'est comme les engagements. Moi, par exemple, je dis qu'il existe une résistance chrétienne, mais elle est évidemment moins visible que la résistance communiste, parce que la résistance communiste, il y avait des réseaux bien établis qui étaient par le PC, enfin voilà. La résistance chrétienne, il y a eu évidemment les réseaux Michelet, il y a eu les réseaux du cahier du témoignage chrétien, mais moi je vais plus loin, je dis qu'il y a beaucoup de gens qui se sont engagés parce qu'ils étaient chrétiens. Mais évidemment, ce n'est pas l'unique motivation. Tout ça, c'est un faisceau de motivation. C'est ce que dit Odile Vasseau. Elle dit, elle est très fervente, chrétienne, mais elle est aussi, d'abord, elle s'engage pour libérer son pays. Je pense que Madeleine Riffaud, c'est pareil. C'est que, d'abord, ils se disent, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils ne se disent pas, oh là là, je suis chrétien, donc je vais m'engager. C'est des gens qui... C'est comme dit aussi l'épouse du pasteur Trocmé au Chambon-sur-Lignon. Elle dit, moi, je vois arriver quelqu'un qui a fait 400 km à pied dans ma cuisine au Chambon-sur-Lignon, qui fuit, qui est persécuté. Je la reçois chez moi. Puis après, il y a une autre personne qui arrive. Et puis après, voilà. Donc, ça se fait comme ça. Par contre, je pense que la foi, l'engagement spirituel est un moteur puissant. Et je pense que, par exemple, le maréchal Leclerc, le général Leclerc, n'aurait pas été le général Leclerc, n'aurait pas fait le serment de Koufra, n'aurait pas libéré Paris, Strasbourg, jusqu'au nid d'aigle de Berchtesgaden, si il n'avait pas été animé par une puissance spirituelle très forte. Et d'ailleurs, sa fille m'a confié des lettres de lui quand il est enfant, où il hésite à rentrer dans les ordres, qui sont assez étonnants. Donc ici, quand même, pour revenir à Brive, vous avez les grottes de Saint-Antoine de Padoue où les franciscains cachaient des armes pour la résistance, le couvent d'Aubazine où Edmond Michelet, qui habitait juste à côté, prenait sa voiture et allait transporter les gens, les réfugiés juifs, dans le couvent d'Aubazine. Qu'est-ce qui fait qu'un Edmond Michelet, qui est un notable installé à Brive, qui a 4 enfants, décide un jour de rentrer en résistance? Donc c'est ce déclic. C'est ce moteur et c'est cette audace, en fait, qui m'intéresse. Et je vais même plus loin. Je pense que De Gaulle n'aurait pas eu la folie, parce que j'avais rencontré Alain Decaux qui m'avait dit, vous savez, l'histoire de De Gaulle, c'est simple, c'est l'histoire d'un fou, en fait, qui dit, qui plaque tout, sa famille, une carrière prometteuse, pour partir dans l'inconnu tout seul à Londres, et qui dit, je suis la France, et tout le monde le prend pour un timbré. Et en fait, le même fou, 4 ans après, descend les Champs-Élysées, et il est la France. Et donc, cette folie-là, je pense que De Gaulle, s'il n'avait pas été éduqué dans la religion chrétienne qui est très forte chez lui, il n'aurait pas été poussé dans cette folie-là s'il n'avait pas eu cette dimension-là.
Pour revenir à la zone grise qui me semble intéressante, on la voit très bien dans L'Armée des Ombres de Melville. Il y a une scène où Lino Ventura s'échappe, il s'évade et il rentre chez un barbier qui est Reggiani. Et en fait, il se fait la barbe et il se fait faire, pour se cacher des Allemands qui le poursuivent. Et Reggiani, il a un portrait de Pétain, en fait, dans son échoppe. Et donc, il fait semblant de le coiffer, etc. On voit les Allemands passer, il dit rien. Et quand Lino Ventura s'en va, Reggiani lui donne un autre manteau pour qu'il puisse se camoufler. Donc c'est ça, et c'est ce que Madeleine raconte aussi. Elle dit, tout le monde n'était pas résistant dans l'âme, tout le monde ne pouvait pas prendre les mêmes risques que nous on pouvait prendre, parce que peut-être qu'on était jeune, peut-être qu'on était fou, peut-être qu'on s'en foutait de mourir, ça c'est autre chose, tout le monde ne peut pas avoir ce truc-là, mais à chaque fois qu'on s'est échappé, à chaque fois qu'on a sonné une porte, il y a des gens qui nous ont ouvert, il y a des gens qui nous ont cachés, donc c'est plus compliqué que ça. Pour elle, les résistants, ce qu'on appelle les résistants des derniers jours, c'est pas les résistants qui sont descendus à Paris pour se battre contre les Allemands, c'est ceux qui n'ont jamais été résistants et qui se sont fait tamponner avec les brassards FFI qu'ils ont pris au FFI au moment où c'était la fête, c'est eux. C'est pour ça qu'elle n'est pas allée se faire tamponner résistante, parce qu'elle a trouvé ça dégueulasse, tous ces résistants-là. Mais pour elle, les gens qui ont libéré Paris, y compris des risques, et dont beaucoup sont morts, même s'ils n'avaient rien fait pendant la guerre, à ce moment-là, ils sont devenus résistants. Donc c'est effectivement très, très complexe. Elle le raconte très bien, Madeleine. Et puis pour Madeleine, c'est un personnage complexe parce que son père et son grand-père son père était socialiste puisqu'il était instituteur, son grand-père était ouvrier agricole du Limousin, donc effectivement bouffeur du curé et anarchiste sans savoir qu'il était anarchiste, et sa mère et sa grand-mère étaient deux grandes catholiques qu'allaient tous les jours à la messe, et sa mère, comme elle était instite aussi, elle y allait à 5h du matin pour que personne ne sache qu'elle allait à la messe, parce que pour une institutrice, ça la foutait mal. Donc, et Madeleine, c'est ça. Madeleine, elle est communiste d'un côté, elle est toujours, et en même temps, le communisme pas stalinien du tout. Hein. Et de l'autre côté, elle est encore très catholique, elle croit aussi à ça, et elle se défend d'être des deux, en fait. Elle est quelque chose au milieu, mais c'est des valeurs humanistes qui sont quand même relativement proches. Si on enlève tout ce qu'il y a autour, c'est quand même la même chose d'aider les gens plus faibles, finalement, c'est ça, Madeleine. Et c'est un mélange intéressant, vraiment, vraiment intéressant.
C'est les valeurs de l'engagement, hein, ce que vous dites, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Et d'ailleurs, j'avais rencontré aussi, j'en parle un petit peu, vous avez cité Marie-Josée Chambardelot. Et donc ça, c'est intéressant, parce que aussi, Marie-Josée Chambardelot, elle a été très catholique jusque dans les années 50. Ouais. Et puis après, elle a basculé, elle est devenue complètement anticléricale. Mais elle m'a raconté dans les camps comment elle avait fait des petites crèches, le Noël, comme ça. C'est très émouvant, tous ces engagements, surtout qu'en plus, c'est des engagements, j'allais dire, c'est des engagements qui ne la ramènent pas, quoi. Et là, on a tellement, dans notre époque, où les gens la ramènent beaucoup, on a tellement de gens qui se croient très engagés et qui ne le sont pas, mais qui disent fortement qu'ils sont très engagés. Donc là, c'est toujours... je pense que vous avez ressenti la même chose, de voir ces vieilles dames, en fait, qui la ramènent pas et qui ont fait des choses exceptionnelles.
Et de ce côté-là, en fait, Madeleine dit aussi, effectivement, en ayant été très engagée, et en l'étant toujours, finalement, et en étant toujours résistante à tous les niveaux, elle dit qu'elle n'est pas une héroïne, et elle dit que les héros, c'est ses amis qu'elle a rencontrés, dont elle veut aussi raconter l'histoire, etc. Donc pour ces gens-là, ils ne se prennent pas pour des héros. Ils n'en sont pas dans leur tête. Pour nous, ils en sont, et puis je pense qu'objectivement, ils en sont. Mais ils n'en sont pas. Mais parmi tous les héros que Madeleine a rencontrés, un de ceux qui compte le plus, c'était justement son curé de folie de son village dans la Somme, qui s'appelait l'abbé Lavalard, et qui, dont on en parle dans la BD. Et l'abbé Lavalard, en fait, il faisait des prêches dans les églises du coin. Il avait été envoyé là parce que pour être un peu mis à l'abri, parce qu'il était un peu virulent, visiblement, par rapport aux Allemands. Et donc, il faisait des prêches pour dans l'idée d'être repéré par la résistance, et que quelqu'un vienne le chercher, parce que c'est quasi impossible de rentrer dans un réseau. C'est très difficile. Madeleine dit toujours, on rentre dans un réseau, on est catholique, on est communiste, on est quoi que ce soit, on ne sait pas dans quel réseau on rentre. On peut être catholique et rentrer dans un réseau communiste. En fait, on fait comme on peut, quoi. C'est plus compliqué que ça. Et lui, il est devenu un des chefs de la résistance de la Somme. Il a été déporté à Mauthausen, où le futur mari de Madeleine à l'époque, hein, Pierre Dex, l'a rencontré. Et il a continué à résister, à faire des messes. Il n'a pas voulu être transféré de camp pour aller avec tous les prêtres qui étaient dans un autre camp. Il a dit, moi, je suis ici comme résistant, je suis pas ici comme prêtre. Donc tout ça est.
Eh ben voilà, vous voyez, par exemple, je ne le connaissais pas.
Il est génial, l'abbé Lavalard.
Et donc ça corrobore ce que je disais, c'est que en fait, il y en a plein. Et puis il faut voir aussi, puisque vous en faites mention, le courage. Parce qu'à l'époque, quand on avait une église, enfin une hiérarchie très pétainiste, le courage des prêtres et des religieux de base de rejoindre la résistance, parce qu'ils sont en rupture avec tout le monde. Ils sont en rupture avec leur culture d'origine, en rupture avec leur hiérarchie, en rupture avec leur environnement immédiat. Et en même temps, ils ont une position exposée, puisqu'ils sont, à l'époque, le catholicisme est quand même très puissant en France. Donc c'est quand même un courage très fort. Et tous ces gens qui ont été cachés dans des maisons religieuses, dans des couvents partout en France, moi je trouve que c'est très, très impressionnant, parce que très souvent dans la trajectoire des résistants, des gens qui ont des juifs persécutés, on retrouve cette dimension d'accueil et d'hospitalité des maisons religieuses et catholiques et protestants aussi, hein, enfin chrétiennes en tout cas. Et donc ça c'est important, je trouve, à noter quoi, à notre époque.
Mais ce qui est passionnant aussi avec le médium de la bande dessinée, c'est la manière, Jean-David Morvan, et ça c'est le travail aussi avec les dessinateurs, c'est l'importance des lieux. Les lieux sont presque comme des personnages. Deux lieux symptomatiques. Le premier lieu dans la bande dessinée Madeleine, c'est la montagne et le sanatorium, avec cette référence un peu à la montagne magique. Et évidemment, dans la ferme de l'enfant loup, le maquis du Vercors, qui est dessiné comme si c'était un personnage. Est-ce qu'il y avait cette importance aussi de restituer la force, la beauté et en même temps l'inquiétude de ces lieux, d'où pouvait venir l'ennemi, hein?
Bah pour nous, c'est important parce qu'en BD, l'image compte presque plus que le texte. Moi, je suis scénariste, mais quand j'ai une belle image puissante, ça m'évite 20 pavés de texte et il y a une impression directe sur le lecteur qui est beaucoup plus forte, qui me permet en plus, en contrepoint dans le texte, de raconter autre chose. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est sûr que Saint-Hilaire-du-Touvet, dans la Chartreuse où il y avait le sanatorium des étudiants dirigé par le docteur Douady, mec formidable, dont j'ai d'ailleurs eu le petit-fils qui m'a écrit il y a deux jours. J'étais super surpris parce que j'avais peu d'infos sur Douady. Je savais même pas qu'il avait un petit-fils, à vrai dire. Et qui lui aussi cachait des juifs dans son sana. Trois Herzog, Cohen et Lévy, je crois qu'ils étaient trois grands médecins juifs qu'il a cachés là-bas et qui soignaient les gens qui étaient malades. Donc ça c'est sûr que la montagne, la brume, pour dessiner, c'est magique, hein, comme la montagne est magique, évidemment. Et puis le Vercors, en plus, il y a la puissance des lieux, de cette espèce de plateau entouré de montagnes qui semble être une forteresse imprenable et qui se transforme finalement en piège implacable une fois que les Allemands sont rentrés. Donc c'est sûr que si on montre pas les décors, on peut pas comprendre tout ça, en fait. Donc il faut travailler dessus, il faut des grands dessinateurs pour le faire.
D'où aussi presque un besoin d'incarnation, puisque aussi dans la résistance chrétienne et catholique, avec l'idée aussi dans l'évangile que le Verbe se faisant chair, il faut des gens aussi pour incarner physiquement et concrètement cette résistance. Vous racontez notamment à la fin, et Edmond Michelet en parlait, l'histoire incroyable de l'abbé Franz Stock. Ça donnerait une BD extraordinaire, c'est-à-dire cet homme qui accompagnait les détenus jusqu'à la fin. Enfin, il y a une émotion comme ça qui est palpable dans ce qui est raconté.
Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai été très marqué par l'abbé Franz Stock parce que j'étais une fois en reportage il y a 15 ans à Chartres, et j'ai eu la chance de quelqu'un qui est décédé depuis là m'avait fait visiter le séminaire des Barbelés, et ça avait toujours trotté dans ma tête cette affaire, parce qu'en fait, pour vous résumer, en fait, à la fin de la guerre. C'est Edmond Michelet qui est à l'origine d'ailleurs de ça. C'est que on se dit comment on peut dénazifier les esprits en fait allemands. Et donc on met dans un séminaire dans un camp à côté de Chartres des séminaristes chrétiens et qui vont recevoir un enseignement pour justement revivifier un peu l'Allemagne spirituellement et surtout retirer la gangrène du nazisme. Et donc moi je trouve que c'est une idée absolument géniale, hein, ça. Donc ça c'est l'idée de Edmond Michelet et du nonce catholique à l'époque à Paris qui deviendra Jean XXIII. Et donc tout ça est mis en musique par l'abbé Franz Stock. Et donc j'avais été très marqué parce que le séminaire des Barbelés à Chartres, il est resté dans son jeu. Donc on visite les lieux, c'est très émouvant comme lieu. Il y a une puissance d'évocation un peu comme au Radour-sur-Glane, si on peut dire, dans une autre dimension, évidemment. Mais le fait de voir les choses comme ça, ça... Et alors surtout, on m'avait donné les coordonnées d'un ancien séminariste qui est décédé depuis aussi et que j'avais été voir. Alors après, je m'étais retrouvé en reportage à Strasbourg, donc c'est pareil. Il habitait à côté de Strasbourg, j'avais été l'interroger. Et donc j'avais mis tout ça dans un tiroir. Je me suis dit, un jour, il faudra que j'écrive et tout. Et en fait, c'est venu naturellement en faisant le livre, je me suis dit, ah mais il faut faire... dans les résistants, il y a évidemment Franz Stock, parce que Franz Stock, alors qui était Franz Stock? C'était l'aumônier de la communauté catholique allemande à Paris, Et d'ailleurs, il y a un lien aussi avec la Corrèze, puisque Franz Stock a été éduqué un peu par Marc Sangnier. Donc ici, avant la guerre, il venait ici, il a été éduqué un peu au pacifisme par Marc Sangnier, par les rencontres. Enfin, il y avait des rencontres à côté, là. Enfin, c'est tout ce réseau, Michelet, Marc Sangnier, enfin, voilà. Et donc, après cet homme, il se retrouve donc aumônier de la communauté allemande et il va être, en fait, l'aumônier des prisonniers de la prison du Cherche-Midi, de Fresnes, et jusqu'au Mont Valérien. Et en fait, il va se donner comme office. Alors, il a une soutane, en fait, il a une double poche. Et donc, pour faire passer, en fait, il cache dans ses poches des messages pour les familles. Et donc, il fait le passeur entre ses détenus et les familles. Il passe des petits messages. Et alors, par exemple, il arrive... Alors, parce qu'après, j'avais rencontré Jacqueline Fleury-Barrier qu'il avait connue à la prison du Cherche-Midi. Alors, il se met dans le... Il récite des prières. Alors, il dit « Je vous salue, Marie ». Et puis, au milieu, il dit « Votre femme va bien, vos enfants aussi, vous inquiétez pas ». Et alors, il continue plein de grâce et tout. Et puis, il met... voilà. Donc, et alors surtout après, ce qu'il a fait, l'abbé Franz Stock, c'est qu'il était, il accompagnait les résistants au peloton d'exécution au Mont Valérien. Et donc il voulait être un peu la sentinelle du bien, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est cette image qui est magnifique, et je trouve que ça, c'est des élans de grâce, en fait, de retrouver comme ça chez des gens. C'est, il voulait se tenir en face des gens qui étaient sur le peloton d'exécution, pour qu'ils gardent une dernière image, en fait, chaleureuse de bien de leur passage sur Terre. Donc, il est regardé comme ça. Et alors, après, il a fait un journal que j'ai consulté, qu'on peut acheter aux éditions du CERF, et où il raconte tous les prisonniers. Mais comme il n'a pas le temps, c'est très technique. Alors, il dit « et accompagné, machin, il m'a demandé de garder son alliance donc ou alors par exemple il dit et accompagné truc jeune garçon qui est sur un brancard parce qu'il avait essayé de s'échapper donc il avait le pied dans le plâtre, on l'a porté à bout de bras et puis mais c'est hyper sec, mais alors c'est des morceaux de vie, alors c'est d'une émotion, alors à la lecture c'est pas toujours facile à lire mais c'est des morceaux de vie, enfin c'est incroyable. Et je me suis dit, en fait, cet homme, il a vécu un calvaire terrible, quoi, parce qu'en fait, il a porté les souffrances de... Donc pour moi, c'est pour ça, c'est un saint en enfer, quoi. C'est-à-dire qu'il a porté les souffrances sur ses épaules de tout le monde. Alors, sur les quelques photos, on le voit, il a les lèvres complètement serrées. Donc en fait, il ne parlait pas, il ne parlait qu'aux familles. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'image du saint, en fait. Hein. Donc,
Cette incarnation, on le retrouve avec Madeleine résistante, mais également avec la ferme de l'Enfant-Loup. Ce personnage d'enfant-loup, qu'est-ce qui représente? Est-ce que c'est aussi une porte d'entrée pour comprendre et saisir toute la sauvagerie d'une époque et, d'une certaine manière, une certaine vision de l'innocence bafouée qui doit faire face à cette banalité du mal?
Ouais, c'était ça. Et puis c'était aussi le lien entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, à travers une famille, mais je ne peux pas raconter l'histoire, d'un gamin qui survit dans le Vercors après une incursion allemande qui n'a pas existé, hein, mais de quelqu'un qui venait récupérer son fils. Bref, une longue histoire dans le Vercors, alors que les Allemands étaient bloqués à Vorep au-dessus de Grenoble et que l'armée des Alpes résistait encore. Hein, donc... Quand ils ont arrêté la guerre, quand ils ont signé l'armistice, il y avait quand même encore de la bagarre. Hein, donc c'est compliqué. De toute façon, cette période-là, elle est vraiment très compliquée. Bon, bref, j'ai inventé ça, et cet enfant qui survit dans la montagne pendant 3 ans avant que des résistants arrivent dans la ferme où il habitait, où ses parents sont morts pour surveiller justement le pont de la Goule Noire et une des 9 entrées dans le Vercors pour éviter que les Allemands reviennent. Comme avait fait la milice quelques semaines avant pour déjà attaquer Vassieux-en-Vercors. Donc ils commençaient à surveiller le terrain. Ils pensaient dans le Vercors qu'ils étaient tranquilles. Ils ont lancé la République du Vercors, c'est-à-dire la première nouvelle République de France libérée, juste avant le 21 juillet, l'arrivée des planeurs allemands et puis que les troupes armées allemandes de montagne passe par-dessus les falaises et les blocs à l'intérieur et tue plus de 800 personnes, je crois, C'était intéressant. Donc, mais oui, cet enfant-là, il était bien pour rajouter une dimension peut-être effectivement métaphysique et en même temps quelque chose d'un peu moins historique, mais qui nous mettait aussi beaucoup dans l'émotion et qui me permettait à travers lui de présenter tous les résistants qui sont dans cette histoire. Donc j'ai mis un Espagnol, un tirailleur sénégalais d'une histoire vraie terrible qui s'est passée justement juste avant la fin de la guerre, enfin en tout cas de l'armée 640, et puis toutes sortes de personnages, une Allemande aussi qui avait fui l'Allemagne, un Polonais parce qu'il y avait un lycée polonais dans le Vercors où ils avaient récupéré beaucoup de réfugiés polonais, et puis un monsieur qui travaillait avec De Gaulle. Donc j'ai essayé de donner tous les aspects de la résistance à travers tous ces personnages, mais justement l'enfant qui venait de nulle part nous permettait de les révéler dans leur caractère. C'était pas mal.
Et le fait de continuer de travailler à nouveau avec Facundo Percio, avec qui vous aviez adapté les Croix de bois de d'Orgelès, pour vous c'était évident de travailler avec lui parce qu'il y a cette force et cette presque explosion graphique.
Oui, bah dans les Croix de bois, c'est sûr que bon, d'Orgelès, en plus c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. On pouvait avoir, c'est tellement, enfin bon, d'Orgelès c'est magnifique, il n'y a pas vraiment d'autres mots, mais c'est vrai qu'avec une, on pouvait avoir la puissance brute d'un dessinateur comme Facundo, qui est vraiment très très puissant, ça collait bien les deux, justement dans le contraste, et avec Facundo on cherchait une BD à faire, et je m'étais retrouvé dans le Vercors quelques mois avant, et on y allait tous les deux après, parce que je me suis dit, comme tout le monde, en tout cas comme beaucoup de gens, je connaissais le maquis du Vercors, mais je savais pas vraiment ce qui s'y était passé, comment ça s'était déroulé exactement. Donc c'était l'occasion d'y aller, d'acheter des livres, d'aller dans le mémorial, d'aller à la grotte de la Luire où il y a eu le massacre des blessés, etc. Et puis voilà, on s'est lancé dans cette histoire sans vraiment pouvoir s'arrêter, parce qu'une fois qu'on est vraiment pris dans cette ambiance-là du Vercors, c'est génial tout ce qu'il y a à raconter. Donc voilà.
Vous citiez d'Orgelès, vous Jérôme Cordelier, je le disais au début. Le titre est emprunté à un texte de Bernanos, que vous mettez d'ailleurs à la fin, comme si, d'une certaine manière, la boucle est bouclée, mais porteur d'espoir. Le fait de faire apparaître déjà le texte à la fin, c'était une évidence, ça s'est décidé très vite.
Ben, en fait, c'est en faisant le livre, je suis tombé sur ce texte, et donc je me suis dit, ben voilà, je vais prendre une phrase et je vais en faire un titre. Alors j'ai un peu hésité, parce que je me suis dit, oh là là, quand même... Et puis je me suis dit surtout, c'est pas mal de remettre un petit peu, enfin à mon échelle, dans le débat, le mot espérance. Parce que c'est un très beau mot en fait. Et donc qui a été complètement perdu du débat public parce qu'on le trouve trop peut-être connoté spirituellement. Alors que c'est un mot magnifique, c'est beaucoup plus beau que l'espoir en fait, l'espérance. Parce que l'espérance c'est porteur d'une autre dimension. Et je trouve que cette phrase, l'espérance est un risque à courir... Enfin, il n'y a que Bernanos pour avoir des phrases comme ça. Et d'ailleurs, tout le texte est absolument sublime. Et surtout, on a l'impression qu'il a été écrit hier. Donc, c'est une phrase qui résonne aujourd'hui. Alors, en plus, je finissais le livre, on était confinés, comme beaucoup de monde. Et je m'étais dit, bon, l'espérance est un risque à courir en plein confinement, comme ça. Voilà. Et puis, surtout, je trouve que ce mot espérance, par exemple, De Gaulle, il truffait ses discours du mot d'espérance. Il y en avait partout, hein. Et ces hommes politiques comme ça, Edmond Michelet, c'est pareil, il y avait l'espérance. Et étonnamment, dans les hommes politiques contemporains, on a perdu ce mot espérance, quoi. Alors que je trouve que c'est un mot très, très beau, c'est doux, c'est sonorité, voilà, c'est.
Et pour venir au texte, juste deux secondes, c'est vrai que quand les textes sont beaux, il faut les mettre, des fois, parce que à la fin des Croix de bois, qui est quand même la fin des romans de 14 que j'ai lus, j'en ai lu beaucoup, que je préfère, qui est vraiment magnifique, j'ai même pas eu le courage de le mettre en BD, j'ai carrément mis deux pages du texte de d'Orgelès, tellement c'est beau et c'est émouvant, quoi.
Mais toujours aussi, ça revient à ce qu'on disait au début, sur l'importance de la mémoire dans les camps de concentration et d'extermination. Ce qui s'échangeait d'abord et avant tout, c'était pas forcément déjà du pain, mais c'était des poèmes appris par cœur, et ceux qui résistaient, c'est ceux qui avaient justement cette mémoire-là. Et dans le texte des Montmichel, rue de la Liberté, ils disent à quel point des textes de Vigny, de Hugo et de Peggy les ont aidés à vivre. Est-ce que c'est ce qui vous a frappé dans les rencontres, je pense à la fois de Madeleine Riffaut et vous, Jérôme Cordelier, dans les rencontres que vous avez faites, cette importance du texte comme pour dire aussi, si c'est un homme aussi par rapport à Primo Levi, nous sommes encore des hommes et des femmes parce que nous sommes porteurs de mémoire.
Oui, puis je pense que c'est aussi une époque où il y avait moins d'images qu'aujourd'hui, donc le texte était particulièrement important. Moi, je me suis souvent demandé pourquoi les gens de cette époque, quand j'en parlais avec Madeleine, étaient aussi fans de poésie, alors que ça allait d'avoir un peu disparu et que pour nous, notre génération, on était beaucoup moins férus de poésie. Ça nous faisait un peu peur. On était un peu, on avait l'impression de pas être assez intelligent pour comprendre la poésie, je crois, ou que c'était un peu suranné. Et quand on voit, et c'est ça qui est bien moi en faisant ce travail-là, quand je vois ce que pensaient, quand elle me raconte ce que pensaient les jeunes de cette époque, ils faisaient tous de la poésie, comme peut-être à mon époque on commençait tous à faire de la bande dessinée ou du rock'n'roll. Et en fait, je pense qu'il faut remettre la poésie dans son contexte. C'est un truc de jeunes, c'est un truc puissant qui a entraîné beaucoup de gens, et c'est pas du tout quelque chose de compasser en fait la poésie. Mais aujourd'hui, on a un peu cette impression-là, mais je crois que eux, ils le voyaient pas du tout comme ça. Et effectivement, en se récitant des poèmes pendant toute sa, comme je disais tout à l'heure, sa captivité, Madeleine, elle a aussi survécu grâce à la poésie. Hein, elle s'en souvient toujours par cœur.
Et surtout, la poésie, c'est un vecteur d'humanité, en fait. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai rencontré Jacqueline Fleury-Marié, qui était déportée à Ravensbrück, qui ferait d'ailleurs une excellente bande dessinée, je pense aussi.
Je pense,
c'est,
ouais.
C'est un personnage formidable. Ouais. C'est un personnage formidable. Ils se connaissent, je sais. Et qui a beaucoup d'humour, la mémoire et l'humour. Et donc elle me disait, moi ce que j'ai appris à Ravensbrück, c'est l'amitié et la solidarité et la fraternité, on peut dire. Et je trouve qu'on retrouve ça dans Rue de la Liberté. On retrouve ça aussi dans l'autre grand texte, je trouve, de récits comme ça, c'est La traversée de la nuit de Geneviève de Gaulle Antonioz, qui est un texte puissant aussi parce que c'est un pur récit. Et donc on trouve, comme ça, c'est l'humanité. Et puis, il y a une dimension aussi, l'humour. Par exemple, Jacqueline Fleury, ce qu'elle me dit toujours, c'est l'humour qui m'a sauvé. Alors, je vous donne une petite anecdote parce qu'elle fonctionne toujours. Parce que Jacqueline Fleury, quand elle revient de Ravensbrück, elle a fait les marches de la mort. Elle m'a raconté comment elle a souffert, non pas de la faim, mais de la soif. Parce qu'elle me dit, il y a pire que la faim, c'est la soif. Et donc, il suçait des brins d'herbe pour recueillir l'eau de la rosée. Donc, avec sa mère, pendant un mois et demi, elle se retrouve au Lutetia. Donc, on leur donne une chambre. Elles ne peuvent pas dormir dans le lit parce qu'elles ne peuvent plus dormir dans le lit. Donc, elles dorment par terre. Et après, on leur donne un ticket de métro pour qu'elles rentrent chez elles. Elles habitent à Versailles. Elles prennent donc le train pour aller à Versailles. Et puis, en sortant de la gare, Jacqueline s'effondre, s'assoit par terre parce qu'elle est épuisée. Et sa mère lui lance cette phrase que j'adore, que j'aime beaucoup, et que Jacqueline aussi aime beaucoup. Elle lui dit « Ma fille, relève-toi, tu es quand même à Versailles. » Et donc,
voilà. Mais je travaille aussi avec une autre dame qui a le même âge que Madeleine, à quelques mois après, qui s'appelle Ginette Kolinka, donc qui est la maman de Richard Kolinka, parce que lui, il le dit plus Kolinka, le batteur de téléphone, et qui était à Birkenau. On y allait ensemble, mais évidemment elle y allait avant, bien avant moi, et dans des circonstances beaucoup moins agréables, et qui est vraiment à la fois très 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 pénétrée, on va dire, par ce qu'elle a raconté là-dessus, et qui peut pas s'empêcher d'y aller et de témoigner, et qui en même temps est d'une drôlerie incroyable, parce que c'est aussi d'abord son caractère, et je pense aussi une manière de faire passer les choses à tout le monde, hein. Je l'ai vu faire des conférences devant 100 profs à Drancy, tout le monde était épaté. Et justement, au moment où elle... Parce qu'elle dégage vraiment, comme Madeleine, une puissance incroyable, mais totalement différente. Et juste un tout petit truc d'humour de Ginette. Quand arrive le moment des questions dans ce genre d'événement, comme elle sait que tout le monde est timide pour poser les questions, elle dit « Bon, ben voilà, j'ai ramené des sucettes, donc les trois premières personnes qui me posent une question auront droit à une sucette. » Voilà. Alors ça fait rire tout le monde. Et après, les gens, ils posent des questions, ils osent, quoi. Et c'est vrai que l'humour, c'est quand même hyper important.
Dernière question pour rappeler l'importance de la littérature et du travail journalistique, du travail de scénariste dans l'actualité littéraire. Le prix Goncourt remet au goût du jour aussi un auteur qu'on avait oublié. Est-ce que le fait de faire de la bande dessinée, de travailler d'un point de vue journalistique, d'aller recueillir des témoignages, c'est une manière aussi de dire qu'on est là pour ne pas oublier et pour que les choses ne soient pas lettre morte. Est-ce que c'est ça? Parce que Jérôme Cordelier, ce qui est très bon à un moment donné, il y a une évocation importante des noms et il y en a presque trop. Vous l'évoquez pendant plusieurs pages, il ne faut pas oublier cette personne-là, comme si c'était une manière de remettre en selle aussi ou de refonder des sortes de statues aussi.
Ben oui, mais c'est-à-dire, en fait, puis c'est la curiosité, c'est que en fait, à chaque fois que je tombais sur quelqu'un, je retombais sur une autre personne. Et je me suis dit, non, mais cette histoire, elle est trop géniale. Puis alors, personne n'en parle et tout, donc je vais le mettre. Alors effectivement, mon éditrice, d'ailleurs, qui est là, elle me disait, ah oui, il y en a trop, parce que c'est vrai que ça fait un peu litanie. Mais je me suis retrouvé à Yad Vashem un soir, c'était très émouvant. J'étais tout seul sur la colline. Alors donc j'étais dans au milieu de ces petits arbres, j'entendais le bourdonnement de Jérusalem, et puis je voyais tous ces noms en fait. Et donc je prenais des notes. Et alors après j'étais regardé dans les archives, ce qui a fait quoi. Et alors à chaque fois on tombe sur des histoires incroyables, quoi, d'engagement. Donc je me suis dit bon, il faut les mettre. Alors c'est vrai que de temps en temps il y a un trop plein, mais ce qui m'intéresse quand vous dites faire mémoire, c'est que moi, enfin, sans être grandiloquent, moi quand je fais ça, je pense à mes enfants. J'ai des enfants de 9 et 12 ans. Et je me dis, bon, ben voilà, il faut qu'ils connaissent ça. Et surtout, c'est les derniers témoins, quoi. Donc, ces femmes-là, c'est des survivants, il y en a très, très peu, quoi. Donc, il faut recueillir leurs paroles, surtout qu'elles sont disposées à le faire et elles le font de manière... Enfin, je pense que pour Jean-David, c'est pareil, c'est que on passe d'excellents moments, en plus.
Oui,
je veux dire, c'est hyper rafraîchissant. Moi, quand j'allais voir Odile de Vasselot, on était au cœur de Paris, alors c'était au moment où il y avait les gilets jaunes, Paris était à feu à sang, alors je traversais des barrages de police, le pouvoir semblait complètement englué dans ce truc, et j'avais une vieille dame qui m'expliquait la résistance avec un truc, qui me disait, mais moi j'ai rien fait, vous savez, bon, alors elle m'expliquait, et puis, enfin, c'est un privilège pour moi de pouvoir aller discuter et questionner cette femme, donc voilà, je voulais restituer ça, quoi.
Mais ce qui est important de parler des gens dans la guerre, c'est que la guerre en elle-même, la Seconde Guerre mondiale, bon, qui découle de la première, mais tout ça, c'est des dates, c'est des événements, c'est des choses qu'on commence quand même à connaître un peu, l'apocalypse, à la télé, tous les livres, tout ça, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et c'est intéressant, mais justement, je pense que le contexte est posé pour à peu près tout le monde, on a bien identifié les méchants dans cette histoire, en gros, après avec Stock, justement, il y a plein de zones grises comme ça qui sont vachement intéressantes, mais justement, c'est maintenant le moment de parler des gens et de comment ils ont réagi face à ça, parce que il y a tout un contexte qu'on peut évoquer, mais qu'on n'a plus besoin d'expliquer entièrement, qui prendra plus l'entièreté d'un livre ou d'une bande dessinée, mais maintenant ce qui est important c'est de voir comment les gens ont réagi à ça et chaque personne presque a réagi d'une manière différente et en fait c'est des révélateurs de leur humanité et donc c'est ça qui est je pense intéressant de voir comment quelqu'un qui est catholique a réagi, comment quelqu'un qui est communiste a réagi et que finalement c'est à la fois différent et pareil selon leur engagement et selon leur caractère entre Madeleine et Ginette. C'est formidable la différence qu'ils ont sur le même sujet, donc qu'elles ont, pardon, et donc c'est là que c'est presque trop, c'est-à-dire qu'on a envie de raconter la vie de effectivement de tout le monde parce que c'est des gens formidables, quoi. Et il y en a sans doute, comme dit Madeleine, aujourd'hui plein des gens formidables. Il faudra peut-être quelques années pour qu'on s'en rende compte.
Merci à vous deux, Jean-David Bormand, La Ferme de l'Enfant Loup et Madeleine. Jérôme Cordelier, merci. L'espérance est un risque à courir aux éditions Kalman-Lévy. Alors on peut vous retrouver, vous avez le nom des stands pour...
Moi, je suis juste en face. Alors là, franchement, vous tombez dessus quand vous sortez.
Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper.
Et il y a aussi le récit, d'ailleurs, aussi en livre de poche du témoignage de Jacqueline Fleury-Marié aussi. Hein.
Et nous, en revanche, on est super loin, là, dans l'autre halle, à côté d'un cinéma et d'un Leclerc. C'est très joli comme endroit, je vous le conseille.
Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup. Hein, merci.